Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la dysplasie fibreuse des os, ou DFO, et plus précisément le syndrome de McCune-Albright. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Cyril Amouroux. Docteur Amouroux, bonjour.
Bonjour.
Docteur Amouroux, vous êtes pédiatre endocrinologue au CHU de Montpellier, coordonnateur du centre de compétences dysplasie fibreuse des os et syndrome de McCune-Albright au sein de la filière OSCAR. Et vous avez participé à l'actualisation du récent PNDS, justement sur les dysplasies fibreuses des os et syndrome de McCune-Albright. Alors pour débuter notre entretien, docteur Amouroux, qu'est-ce que le syndrome de McCune-Albright?
Alors le syndrome de McCune-Albright, ça fait partie de la dysplasie fibreuse des os, mais c'est quand la dysplasie fibreuse des os s'associe à des manifestations endocriniennes, hormonales. Et donc c'est à ce moment-là qu'on parle de syndrome de McCune-Albright, donc c'est une forme spécifique de dysplasie fibreuse des os.
Et de quelles atteintes hormonales s'agit-il?
Alors, il y a plusieurs types de glandes qui peuvent être touchées. Globalement, dans le syndrome de McCune-Albright, ce qui se passe, c'est qu'il y a une hyperactivation de certaines glandes, donc une hyperproduction d'hormones. Et donc, les glandes qui peuvent être touchées sont les gonades, alors les ovaires chez la fille, les testicules chez le garçon, la glande thyroïde, qui est la glande que la plupart des gens connaissent bien au niveau du cou, et l'hypophyse, moins connue, une toute petite glande qui est située à la base du cerveau, et qui est un peu le chef d'orchestre de beaucoup de systèmes hormonaux dans l'organisme.
Et donc, en conséquence, quelles sont les manifestations cliniques de ce syndrome de McCune-Albright?
Donc, comme je le disais, globalement, quand ces glandes sont touchées, il va y avoir une hyperproduction d'hormones. Alors, comme c'est une maladie très particulière, le syndrome de McCune-Albright, toutes les glandes ne sont pas forcément touchées. Donc, les manifestations cliniques, alors pour les gonades, ce qu'on voit le plus fréquemment en pédiatrie, donc chez le garçon, si les testicules se mettent à fonctionner, on va avoir une puberté, signe de puberté précoce, donc d'imprégnation en testostérone. Donc la pilosité va se développer chez les petits garçons qui sont à distance de l'âge théorique de la puberté. On va avoir de l'acné, le caractère qui change, comme un énervement, une sorte de crise d'adolescence bien avant l'heure. Et une verge aussi qui peut grandir, augmenter de volume. Et chez la fille, on a les signes en miroir, pareil, de puberté précoce, où là, ce sont les seins qui vont se développer. Pareil, à un âge où théoriquement, il n'y a pas encore de puberté, donc bien avant l'âge de 10 ans. C'est parfois des pubertés précoces, que ce soit le garçon ou la fille, qui peuvent survenir très très tôt, vers 18 mois, 2 ans, 3 ans. Chez la fille aussi, le caractère, bien sûr, peut changer un petit peu en miroir de ce qui se passe chez le garçon. Pour les problèmes thyroïdiens, on va avoir des signes d'hyperthyroïdie. Donc, quand il y a une hyperthyroïdie, le caractère peut changer aussi. On peut être énervé, irritable, fatigué. On peut avoir une accélération du transit digestif, avoir chaud, perdre du poids alors qu'on mange tout à fait normalement, voire on mange plus et on perd quand même du poids. Et puis parfois, sans qu'il y ait, avant que la thyroïde produisent vraiment beaucoup d'hormones et qui est vraiment beaucoup de signes cliniques, on peut aussi avoir une thyroïde qui grossit, ce qu'on appelle un goitre, avec l'apparition de nodules, de petites boules en son sein. Donc ça peut être avant ou au même moment que la production d'hormones. Et enfin pour l'hypophyse, donc l'hypophyse, je disais, c'est une petite glande, mais qui fait beaucoup de choses. C'est un chef d'orchestre, donc elle fait plusieurs hormones et les hyperproductions qu'on peut constater dans le syndrome de McCune-Albright, ça va être une hyperproduction de prolactine. Parfois, la prolactine, c'est une hormone qu'on fabrique rarement, mais quand on la fabrique, c'est pour l'allaitement. Donc, c'est finalement, plutôt chez les femmes, on peut avoir une galactorée, un écoulement de lait par les seins alors qu'il n'y a pas eu de grossesse. On peut avoir une hyperproduction d'ACTH. L'ACTH étant l'hormone qui contrôle la glande surrénale. La glande surrénale, peu de gens la connaissent, mais cette glande, elle fabrique le cortisol, qui est notre hormone dite du stress, d'adaptation physiologique. Et donc, quand on fait trop d'ACTH et donc trop de cortisol, là, on va grossir. On peut avoir une modification cutanée, on peut avoir de l'hypertension. Plein de signes comme ça, c'est parfois assez difficile à diagnostiquer. Et la dernière hyperproduction de l'hypophyse qui peut se voir, c'est l'hormone de croissance. Donc ça, c'est assez facile à diagnostiquer quand on est en pédiatrie, puisque finalement, il y a une hyperproduction d'hormones de croissance. Donc les enfants se mettent à grandir de plus en plus vite. Ils changent de couloir au niveau de leur courbe de croissance vers le haut. Quand cette hypersécrétion survient chez l'adulte, là, c'est un petit peu plus compliqué à diagnostiquer puisque la croissance des os se fait de manière beaucoup plus lente. On a plutôt des os qui s'épaississent alors que la taille, elle, change très, très peu. Et en IRM, en général, au niveau de l'hypophyse, ces hyperproductions s'associent à un adénome. donc une tumeur bénigne de l'hypophyse qui est expliquée par l'atteinte génétique de l'hypophyse.
Et dans les cas où la dysplasie fibreuse des os n'est pas évidente, docteur Amoureux, est-ce qu'il y a des diagnostics différentiels à écarter dans ces situations?
Alors oui, devant toutes les signes d'hyperproduction hormonale que je viens de citer, il y a d'autres diagnostics, notamment quand on a une symptomatologie de puberté précoce, que ce soit chez un garçon ou chez une fille. On a la cause principale, c'est ce qu'on appelle la puberté précoce dite idiopathique, c'est-à-dire que là, le timing du corps fait que la puberté commence avant l'âge théorique, sans qu'on ait une maladie forcément derrière. Après, si c'est une puberté précoce avec atteinte soit des ovaires, soit des testicules, les autres diagnostics à évoquer sont les tumeurs soit du testicule, soit de l'ovaire. Pour la thyroïde et l'hyperthyroïdie, la principale cause d'hyperthyroïdie, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, reste la maladie de Basedow, donc une maladie auto-immune de la thyroïde. Et pour les adénomes hypophysaires, avec les hyperproductions principalement des trois hormones que j'ai citées, ce sont finalement toutes les autres causes d'adénomes de l'hypophyse qui sont pour la plupart d'idiopathiques, c'est-à-dire sans cause retrouvée quand on est chez des adultes d'âge relativement avancé. Par contre, quand on a un adénome hypophysaire chez un jeune adulte, chez un enfant, un adolescent, on est aussi en général dans des maladies génétiques, mais des maladies génétiques de l'hypophyse. Donc là, c'est d'autres maladies génétiques qu'on recherche.
Et quelle est la prise en charge des patients qui sont touchés par ce syndrome de McCune-Albright?
Donc la prise en charge, elle va découler de l'atteinte qu'on va avoir, parce que même si j'ai tout cité encore une fois, il est excessivement rare d'avoir toutes ces atteintes. On en a plutôt en général une ou l'autre. Donc, pour les manifestations de puberté précoce, que ce soit chez la fille ou chez le garçon, on a des médicaments qui vont soit bloquer l'action des œstrogènes pour les filles, soit bloquer l'action des androgènes pour les garçons. Pour la thyroïde, on a également des médicaments dits anti-thyroïdiens. Et pour les adénomes hypophysaires, il y a deux stratégies. Il y a maintenant des médicaments assez spécifiques qui peuvent bloquer les sécrétions d'hormones hypophysaires, ce qui reste moins invasif. Et puis finalement, pour toutes ces causes-là, on a aussi les traitements chirurgicaux qui sont possibles, qui sont réservés en deuxième ou troisième ligne quand on n'arrive pas à contrôler la maladie. Mais les adénomes hypophysaires peuvent bénéficier de chirurgie. Les hyperthyroïdies du syndrome de McCune-Albright peuvent aussi être traitées chirurgicalement, c'est-à-dire qu'on va enlever la thyroïde. Et pour les pubertés précoces, c'est beaucoup, beaucoup plus rare qu'on opère. Encore que dans la forme chez la fille, il peut y avoir aussi des kystes ovariens qui, eux, peuvent bénéficier d'une chirurgie.
Alors pour conclure, docteur Amoureux, quel est le suivi proposé et le pronostic pour ces patients?
Alors quand on a connaissance de la dysplasie fibreuse chez un enfant ou chez un adulte, le suivi il est très bien codifié. Donc on recherche régulièrement les signes cliniques d'atteinte endocrine. Et si on a un doute, il faut à ce moment-là faire des dosages hormonaux pour confirmer l'hyperproduction d'hormones. Par contre, c'est vrai que quand on n'a pas le diagnostic de dysplasie fibreuse, il n'y a pas de suivi particulier parce que les enfants arrivent avec les premiers signes qui nous font poser le diagnostic. Et une fois que le diagnostic est posé, on va avoir un suivi en général tous les 6 mois. Le pronostic, il est globalement bon parce que les traitements fonctionnent dans ces différentes atteintes. Il y a bien sûr des formes très rares, exceptionnelles, où les traitements sont très compliqués, où il y a beaucoup d'atteintes endocriniennes et il peut y avoir beaucoup de chirurgie, mais ça reste des formes exceptionnelles. Il faut retenir que le pronostic de ces atteintes endocriniennes est quand même plutôt bon, sous réserve bien sûr qu'on a suivi régulier avec des équipes entraînées, et c'est tout l'intérêt du réseau national du centre de référence de la dysplasie fibreuse, syndrome McCune-Albright, avec ses différents centres de compétences qui permettent de mailler comme ça le territoire.
Eh bien, merci infiniment, docteur Amoureux, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la dysplasie fibreuse des os et surtout le syndrome de McCune-Albright. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !